Le problème du comédien. Le problème du comédien m'a le plus longtemps inquiété. J'étais dans l'incertitude, et je le suis parfois encore maintenant, au sujet de la voie qu'il faudrait suivre pour atteindre la conception dangereuse de l'artiste. Une conception traitée jusqu'à présent avec une impardonnable naïveté. Et je me demandais si ce problème du comédien ne me conduirait pas à mon but. La fausseté en bonne conscience. La joie de dissimuler, faisant éruption comme une force, repoussant ce que l'on appelle le caractère, le submergeant parfois jusqu'à l'effacer. Le désir intime de revêtir un rôle, un masque, une apparence. Un excédent de faculté d'assimilation de toutes espèces qui ne savent plus se satisfaire au service de l'utilité la plus proche et la plus étroite. Tout cela n'appartient peut-être pas en propre uniquement aux comédiens. De tels instincts se seront peut-être développés le plus facilement dans des familles du bas peuple qui, sous l'emprise du hasard, dans une indépendance étroite, traversèrent péniblement leur existence, furent forcés de s'accommoder de la commode, de se plier aux circonstances toujours nouvelles, de se montrer et de se présenter autrement qu'elles n'étaient, et qui finissaient, peu à peu, par savoir pendre le manteau au gré du vent. Devenant ainsi presque identique à ce manteau, étant passé maître dans l'art, assimilé et invétéré dès lors, d'un éternel jeu de cache-cache que l'on appelle mimétisme chez les animaux. Jusqu'à ce que, pour finir, ce pouvoir, accumulé de génération en génération, devienne despotique, déraisonnable, indomptable, apprenne en tant qu'instinct à commander d'autres instincts et engendre le comédien, l'artiste. D'abord le bouffon, le hableur, l'arlequin, le fou, le clown, et aussi le domestique classique, le Gil Blas. Car de pareils types sont les précurseurs de l'artiste, et souvent même du génie. Dans des conditions sociales plus élevées, sous une pression analogue, se développe également une espèce d'homme analogue. Mais alors, les instincts de comédien sont le plus souvent contenus par un autre instinct. Par exemple, chez les diplomates. Je serais d'ailleurs disposé à croire qu'un bon diplomate pourrait toujours encore devenir un bon acteur, en admettant, bien entendu, que sa dignité le lui permit. Mais pour ce qui en est des Juifs, ce peuple de l'assimilation par excellence, on serait disposé à voir en eux, conformément à cet ordre d'idées, en quelque sorte a priori, une institution historique pour dresser des comédiens, une véritable pépinière de comédiens. Et en effet, cette question est maintenant bien à l'ordre du jour. Quel bon acteur n'est pas juif aujourd'hui ? Le juif, en tant que littérateur né, en tant que dominateur effectif de la presse européenne, exerce lui aussi sa puissance grâce à ses capacités de comédien. Car le littérateur est essentiellement comédien. Il joue l'homme renseigné, le spécialiste. Enfin, les femmes, que l'on réfléchisse à toutes histoires des femmes. N'est-il pas nécessaire qu'elles soient avant tout et en premier lieu des comédiennes ? Que l'on entende parler des médecins qui hypnotisaient des filles. Pour finir, qu'on se mette à les aimer, qu'on se laisse hypnotiser par elles. Qu'est-ce qui en résulte toujours ? Qu'elles se donnent pour, même quand elles se donnent. La femme est tellement artiste. Notre foi en une virilisation de l'Europe. C'est à Napoléon, et nullement à la Révolution française qui cherchait la fraternité entre les peuples et les universelles effusions fleuries, que nous devons de pouvoir pressentir maintenant une suite de quelques siècles guerriers qui n'aura pas son égal dans l'histoire. En un mot, d'être entré dans l'âge classique de la guerre scientifique et en même temps populaire, de la guerre faite en grand, de par les moyens, les talents et la discipline qui y seront employés. Tous les siècles à venir jetteront sur cet âge de perfection un regard plein d'envie et de respect. Car le mouvement national dont sortira cette gloire guerrière n'est que le contre-coup de l'effort de Napoléon et n'existerait pas sans Napoléon. C'est donc à lui que reviendra un jour l'honneur d'avoir refait un monde dans lequel l'homme, le guerrier en Europe, l'emportera, une fois de plus, sur le commerçant et le philistin. Peut-être même sur la femme, cajolée par le christianisme et l'esprit enthousiaste du XVIIIe siècle, plus encore par les idées modernes. Napoléon, qui voyait dans les idées modernes, et en général dans la civilisation, quelque chose comme une ennemie personnelle, a prouvé par cette hostilité qu'il était un des principaux continuateurs de la Renaissance. Il a remis en lumière toute une phase du monde antique, peut-être la plus définitive, la phase de granit. Et qui sait si, Grâce à elle, l'héroïsme antique ne finira pas quelques jours par triompher du mouvement national. S'il ne se fera pas nécessairement l'héritier et le continuateur, au sens positif, de Napoléon. Lui qui voulait, comme on sait, l'Europe unie pour qu'elle fût la maîtresse du monde. Comment chacun des deux sexes a ses préjugés sur l'amour? Malgré toutes les concessions que je suis prêt à faire aux préjugés monogames, je n'admettrai jamais que l'on puisse parler chez l'homme et chez la femme de droits égaux en amour. Ces droits n'existent pas. C'est que, par amour, l'homme et la femme entendent chacun quelque chose de différent. Et c'est une des conditions de l'amour chez les deux sexes que l'un ne suppose pas chez l'autre le même sentiment. Ce que la femme entend par amour est assez clair. Complet abandon de corps et d'âme, non seulement dévouement, sans égard ni restriction. Elle songe, au contraire, avec honte et frayeur à un abandon où se mêleraient les clauses et les restrictions. Dans cette absence de conditions, son amour est une véritable foi, et la femme n'a point d'autre foi. L'homme, lorsqu'il aime une femme, exige d'elle cet amour-là. Il est donc, quant à lui-même, tout ce qu'il y a de plus éloigné des hypothèses de l'amour féminin. Mais en admettant qu'il y ait aussi des hommes auxquels le besoin d'un abandon complet ne serait pas étranger, eh bien, ces hommes ne seraient pas des hommes. Un homme qui aime comme une femme devient esclave. Une femme, au contraire, qui aime comme une femme devient une femme plus accomplie. La passion de la femme dans son absolu renoncement à ses droits propres suppose précisément qu'il n'existe point de l'autre côté un sentiment semblable, un pareil besoin de renonciation. Car si tous deux renonçaient à eux-mêmes par amour, il en résulterait je ne sais quoi, peut-être l'horreur du vide. La femme veut être prise, acceptée comme propriété. Elle veut se fondre dans l'idée de propriété, de possession. Aussi désire-t-elle quelqu'un qui prend, qui ne se donne et ne se l'abandonne pas lui-même, qui, au contraire, veut et doit enrichir son moi par une adoption de force, de bonheur, de foi, par quoi la femme se donne elle-même. La femme se donne, l'homme prend. Je pense que l'on ne passera par-dessus ce contraste naturel, ni par des contrats sociaux, ni même avec la meilleure volonté de justice. Si désirable qu'il puisse être de ne pas toujours avoir devant les yeux ce qu'il y a de dur, de terrible, d'énigmatique et d'immoral dans cet antagonisme, car l'amour complet et grand, figuré dans toute sa plénitude, c'est de la nature, et en tant que nature, quelque chose d'immoral en toute éternité. La fidélité est dès lors comprise dans l'amour de la femme. Par définition, elle en est une conséquence. Chez l'homme, l'amour peut parfois entraîner la fidélité, soit sous forme de reconnaissance, ou comme idiosyncrasie du goût, ce qu'on a appelé affinité élective. Mais elle ne fait pas partie de la nature de son amour. Et cela si peu que l'on peut presque parler d'une antinomie naturelle entre l'amour et la fidélité chez l'homme. Lequel amour est un désir de possession et nullement un renoncement et un abandon. Or, le désir de possession finit chaque fois qu'il y a possession. De fait, c'est le désir subtil et jaloux de l'homme qui savoure rarement et de façon tardive cette possession, qui fait durer encore son amour. Dans ce cas, il est même possible que l'amour grandisse après l'abandon de soi. L'homme se refuse à avouer que la femme n'a plus rien à lui abandonner. L'ermite parle. L'art de fréquenter les hommes repose essentiellement sur l'habitude, qui suppose un long exercice, d'accepter, d'absorber un repas dans la préparation duquel on n'a pas confiance. En admettant que l'on vienne à table avec une faim d'ogre, tout ira facilement. La plus mauvaise compagnie te permet de sentir, comme dit Méphistophélès. Mais on ne l'a pas, cette faim d'ogre, lorsqu'on en a besoin. Hélas, combien les prochains sont difficiles à digérer. Premier principe. Prendre son courage à deux mains, comme quand il vous arrive un malheur. Y aller hardiment, être plein d'admiration pour soi-même, serrer sa répugnance entre les dents, avaler son dégoût. Deuxième principe, rendre son prochain meilleur. Par exemple, par une louange pour qu'il se mette à suer de bonheur sur lui-même. Ou bien, prendre par un bout ses qualités bonnes et intéressantes et tirer dessus, jusqu'à ce que l'on ait fait sortir toute la vertu et que l'on puisse draper le prochain dans ses plis. Troisième principe, l'auto-hypnotisation. Fixez l'objet de vos relations comme un bouton de verre jusqu'à ce que, cessant d'éprouver du plaisir ou du déplaisir, l'on se mette à dormir imperceptiblement, que l'on se raidisse, que que l'on finisse par avoir du maintien. Un moyen domestique emprunté au mariage et à l'amitié, abondamment expérimenté et vanté comme indispensable, mais non encore formulé scientifiquement. Le populaire l'appelle « patience ». L'ermite parle encore une fois. Nous aussi, nous avons des rapports avec les hommes. Nous aussi, nous revêtons humblement le vêtement que l'on sait être le nôtre, que l'on croit nous appartenir, sur lequel on nous vénère et on nous cherche. Et nous nous rendons en société, c'est-à-dire parmi des gens déguisés qui ne veulent pas qu'on le dise déguisé. Nous aussi, nous agissons comme tous les masques avisés et nous éconduisons d'une façon polie toute curiosité qui ne concerne pas notre travestissement. Mais il y a encore d'autres manières et d'autres trucs pour hanter les hommes, par exemple comme fantômes. Ce qui est très recommandable lorsque l'on veut se débarrasser rapidement et leur inspirer la terreur. Il n'y a qu'à essayer. On étend la main vers nous et l'on n'arrive pas à nous saisir. Cela effraie. Ou bien, nous entrons par une porte fermée. Ou bien, quand toutes les lumières sont éteintes. Ou bien encore, lorsque nous sommes déjà morts. Ce dernier procédé est l'artifice des hommes posthumes par excellence. Pensez-vous donc, s'écria un jour un de ceux-là avec impatience, que nous aurions envie de supporter cet éloignement, cette froideur, ce silence de mort qui règne autour de nous, toute cette solitude souterraine, cachée, muette, inexplorée, qui chez nous s'appelle vie et qui pourrait tout aussi bien s'appeler mort si nous ne savions pas ce qui adviendra de nous, et qu'après la mort seulement nous réaliserons notre vie, nous nous mettrons à être vivants, très vivants, nous autres, hommes posthumes. On regarde un livre savant. Nous ne faisons pas partie de ceux qui n'ont de pensée que parmi les livres, sous l'impulsion des livres. Nous avons l'habitude de penser en plein air, en marchant, en sautant, en grimpant, en dansant, le plus volontiers sur les montagnes solitaires, ou tout près de la mer, là-bas, où les chemins mêmes deviennent problématiques. Notre première question pour juger de la valeur d'un livre, d'un homme, d'un morceau de musique, c'est de savoir s'il y a de la marche et mieux encore de la danse. Nous lisons rarement. Nous n'en lisons pas plus mal. Oh, combien nous devinons vite comment un auteur est arrivé à ses idées s'il s'est assis devant son encrier, le ventre enfoncé, penché sur le papier. Oh, combien vite alors nous en avons fini de son livre. Les intestins comprimés se devinent. On pourrait en mettre la main au feu. Tout comme se devine l'atmosphère renfermée, le plafond, l'étroitesse de la chambre. Ce furent là mes pensées en fermant tout à l'heure un brave livre savant. J'étais reconnaissant, très reconnaissant, mais soulagé aussi. Dans le livre d'un savant, il y a presque toujours quelque chose d'oppressé qui oppresse. Le spécialiste s'affirme toujours en quelque endroit, son zèle, son sérieux, sa colère, sa présomption au sujet du recoin où il était assis à tisser sa toile, sa bosse, tout spécialiste à sa bosse. Un livre savant reflète toujours aussi une âme qui se voûte. Tout métier force son homme à se voûter. Que l'on revoie les amis avec qui on a été jeune après qu'ils ont pris possession de leur science. Hélas, c'est toujours le contraire qui a eu lieu. Hélas, c'est d'eux que, dès lors et pour toujours, la science a pris possession. Incrustés dans leur coin jusqu'à être méconnaissables, sans liberté, privés de leur équilibre, amaigris et anguleux partout, sauf à un seul endroit où ils sont extrêmement ronds. L'on est ému et l'on se tait lorsqu'on les retrouve. Tout métier, en admettant même qu'il soit une mine d'or, a, au-dessus de lui, un ciel de plomb qui empresse l'âme, qui presse sur elle jusqu'à ce qu'elle soit bizarrement écrasée et voûtée. Il n'y a rien à changer à cela. Que l'on ne se figure surtout pas qu'il est possible d'éviter la déformation par quelque artiste de l'éducation. Toute espèce de maîtrise se paye cher sur la terre, ou tout se paye peut-être trop cher. On est l'homme de sa branche qu'au prix du sacrifice qu'on lui fait. Mais voulez-vous qu'il en soit autrement? Vous voulez payer moins cher. Vous voulez que ce soit plus facile, n'est-ce pas, messieurs, mes contemporains? Eh bien, allez-y. Mais alors, de suite, vous aurez autre chose. Au lieu du métier et du maître, vous aurez le littérateur. Le littérateur habile et souple qui manque en effet de bosse. S'il ne compte pas celle du gros dos qu'il fait devant vous, comme garçon de magasin de l'esprit et comme représentant de la culture. Le littérateur, qui au fond n'est rien, mais qui représente presque tout, qui joue et remplace le connaisseur, qui, en toute humilité, se charge aussi de se faire payer, vénérer et célébrer à sa place. Non, mes amis savants, je vous bénis même à cause de votre boss. Et aussi parce que vous méprisez, comme moi, les littérateurs et les parasites de la culture. Et de ce que vous ne savez pas faire marcher de votre esprit. Et de ce que vous n'avez que des opinions qui ne peuvent s'exprimer en valeur d'argent. Et de ce que vous ne représentez pas ce que vous n'êtes pas. Parce que vous n'avez pas d'autre volonté que de devenir maître dans votre métier, en respect de toute espèce de maîtrise et d'excellence, et en aversion radicale de tout ce qui n'est qu'apparence, demi-vérité, clinquant, virtuosité, façon de démagogue et de comédien, illitéris et artibus, de tout ce qui ne peut pas se présenter devant vous avec une probité absolue dans la préparation et ses moyens. Le génie lui-même n'aide pas à passer sur de pareilles lacunes, bien qu'il s'entende à les faire oublier avec une habile tromperie. On comprendra cela lorsque l'on aura regardé de près nos peintres et nos musiciens les plus doués. Ils savent tous, presque sans exception, par l'habile invention de manières et d'accessoires et même de principes, se donner artificiellement et après coup l'apparence de cette probité, de cette solidité d'école et de culture, sans réussir, il est vrai, à se tromper eux-mêmes, sans imposer définitivement silence à leur propre mauvaise conscience. Car, vous le savez bien, tous les grands artistes modernes souffre de mauvaise conscience. Quelle est la première distinction à faire pour les œuvres d'art? Tout ce qui est pensé, versifié, peint, composé, même construit et formé, appartient ou bien à l'art monologué, ou bien à l'art devant témoin. Il faut encore compter parmi ce dernier l'art qui n'est qu'en apparence un art monologué et qui renferme la foi en Dieu, tout le lyrisme de la prière. Car, pour un homme pieux, il n'y a pas encore de solitude. C'est nous qui avons été les premiers à inventer la solitude, nous autres, impies. Je ne connais pas de différence plus profonde dans toute l'optique d'un artiste. Savoir si c'est avec l'œil du témoin qu'il observe la genèse de son œuvre, qu'il s'observe lui-même, ou s'il a oublié le monde, ce qui est l'essentiel de tout art monologué, art qui repose sur l'oubli, qui est la musique de l'oubli. Le cynique parle. Mes objections contre la musique de Wagner sont les objections physiologiques. À quoi bon les déguiser encore sous des formules esthétiques? Mon fait est que je respire difficilement quand cette musique commence à agir sur moi, qu'aussitôt mon pied se fâche et se révolte contre elle. Mon pied a besoin de cadence, de danse et de marche. Il demande à la musique avant tout les ravissements que procure une bonne démarche, un pas, un saut, une pirouette. Mais n'y a-t-il pas aussi mon estomac qui proteste? Mon cœur, la circulation de mon sang? Mes entrailles ne s'attristent-elles point? Est-ce que je ne m'en roule pas insensiblement? Et je me pose donc la question. Mon corps tout entier, que demande-t-il en fin de compte à la musique? Je crois qu'il demande un allègrement. Comme si toutes les fonctions animales devaient être accélérées par des rythmes légers, hardis, effrénés et orgueilleux. Comme si la vie d'airain et de plomb devait perdre sa lourdeur sous l'action de mélodies dorées, délicates et douces comme de l'huile. Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et dans les abîmes de la perfection. C'est pour cela que j'ai besoin de musique. Que m'importent les théâtres? Que m'importent les crampes de ces extases morales dont le peuple se satisfait? Que m'importent toutes les simagrées des comédiens? On le devine, j'ai un naturel essentiellement antithéâtral. Mais Wagner, tout au contraire, était essentiellement homme de théâtre et comédien. Le mimomane le plus enthousiaste qu'il y ait peut-être jamais eu, même en tant que musicien. Et, soit dit en passant, si la théorie de Wagner a été le drame et le but, la musique n'est toujours que le moyen, sa pratique a été au contraire du commencement à la fin, l'attitude et le but, le drame et même la musique n'en sont toujours que les moyens. La musique sert à accentuer, à renforcer, à intérioriser le geste dramatique et l'extériorité du comédien. Et le drame wagnérien n'est qu'un prétexte à de nombreuses attitudes dramatiques. Wagner avait, à côté de tous les autres instincts, les instincts de commandement d'un grand comédien, partout et toujours, et, comme je l'ai indiqué, aussi comme musicien. C'est ce que j'ai une fois démontré clairement, mais avec une certaine difficulté, à un brave wagnérien. Et j'avais des raisons pour ajouter encore... Soyez donc un peu honnête envers vous-même, nous ne sommes pas au théâtre. Au théâtre, on est honnête qu'en tant que masse. En tant qu'individu, on ment, on se ment à soi-même. On se laisse soi-même chez soi lorsqu'on va au théâtre. On renonce au droit de parler et de choisir. On renonce à son propre goût, même à sa bravoure telle qu'on la possède et l'exerce entre quatre murs envers Dieu et les hommes. Personne n'apporte au théâtre le sens le plus subtil de son art, pas même l'artiste qui travaille pour le théâtre. C'est là que l'on est peuple, public, troupeau, femme, pharisien, électeur, concitoyen, démocrate, prochain. C'est là que la conscience la plus personnelle succombe au charme niveleur du plus grand nombre. C'est là que règne le voisin. C'est là que l'on devient voisin. J'oubliais de raconter ce que mon wagnérien éclairé répondit à mes objections physiologiques. « Vous n'êtes donc tout simplement pas assez bien portant pour notre musique ?»